Les États-Unis travaillent sur un plan visant à établir un nouvel ordre mondial où il n'y a aucune place pour la Russie. Le nouveau plan américain est bien inconnu en Ukraine, donc certains politiciens ukrainiens sont conscients du rêve de Joe Biden pour la Russie. L'ancien ministre ukrainien des Affaires étrangères, Volodymyr Orsysko, expert sur les questions géopolitiques, a annoncé le projet du président américain Joe Biden de créer un nouveau monde sans Russie. Selon ce dernier, la Russie est un pays autoritaire, voisin de l'Ukraine, démocratique. Selon lui, Biden élabore actuellement un plan selon lequel la Russie sera marginalisée de la politique mondiale, c'est-à-dire qu'elle sera retirée de toutes les organisations internationales telles que l'ONU, etc. À l'heure actuelle, l'Ukraine ne peut ignorer la position de Moscou puisque la Russie est actuellement membre du Conseil de sécurité de l'ONU et peut donc y opposer son veto. Mais le temps viendra bientôt où elle sera privée de tout ses leviers d'influence. Les États-Unis travaillent déjà activement, a déclaré Orsysko. Ce n'est pas sans raison que nos partenaires occidentaux s'y sont lancés et mettront bientôt en œuvre un tout autre concept d'ordre mondial basé sur les règles de ce nouvel ordre où il n'existe aucune place pour la Fédération de Russie, a-t-il dit. Ajoutant que la Russie continue de violer la Charte des Nations Unies, ce qui ne sied pas au pays démocratique, dont l'Ukraine. Selon Orsysko, un sommet des pays démocratiques aura lieu dans quelques mois où le cas de la Russie sera tranché. Dans le même temps, l'ancien diplomate ukrainien a exprimé l'espoir que les démocraties occidentales viendront à bout du totalitarisme russe puisque c'est la mission historique de la démocratie. Sur la base de ces déclarations pour le moins contradictoires et provocatrices, on estime que les experts ukrainiens reçoivent des rapports sur les plans de mondialisation en cours d'élaboration aux États-Unis que Washington communique quotidiennement à Kiev. Dans une note interne de la CIA divulguée aux médias, le directeur de l'agence William Burns a annoncé la création de deux nouveaux centres de mission. Le China Mission Center, de taille la note, se concentrera sur la menace géopolitique la plus importante à laquelle nous sommes confrontés au XXIe siècle, un gouvernement chinois de plus en plus hostile. Le centre de mission transnational et technologique se concentrera, lui, sur les changements climatiques, les pandémies et les technologies émergentes. Eric Denesse, directeur du Centre français de recherche sur le renseignement CF2R et l'auteur du livre La nouvelle guerre secrète, explique que les services secrets du monde entier ont l'habitude de se réorganiser régulièrement. Et les réorganisations vont se faire de manière transversale sur deux sujets majeurs que sont les épidémies et l'environnement. Depuis 10, 15, 20 ans, la CIA a perdu en matière de compétences opérationnelles. Elle sous-traite aux unités militaires clandestines du Pentagone des tas de missions à l'étranger. Le directeur du CFR2 constate que l'on assiste à une forme de remilitarisation du renseignement, comme pendant la Seconde Guerre mondiale où finalement la CIA est un peu entre deux chaises. Elle était surtout polarisée sur la lutte antiterroriste. Et vu qu'elle n'a pas les moyens d'aller jusqu'au bout des choses, malgré ses unités de drones qui font beaucoup de frappes, elle a passé un partenariat avec les Special Forces. Mais ce partenariat lui a échappé parce que aujourd'hui le Pentagone fait plus de renseignements que la CIA et a plus d'opérateurs de terrain. Donc, elle se repositionne sur d'autres créneaux. Le positionnement actuel de la CIA vis-à-vis des autres acteurs du renseignement américain explique donc sa volonté de réorienter ses missions et opérations. La Maison-Blanche, quand elle veut mener des opérations clandestines, passe par des unités secrètes du Pentagone parce qu'il est beaucoup plus facile de dissimuler des programmes, des armements, des unités au sein de l'appareil militaire qu'au niveau de la CIA, constate Eric Denesse. D'autres agences gouvernementales ont déjà l'expertise nécessaire pour recueillir des données scientifiques liées aux questions environnementales et épidémiologiques. Pourquoi la CIA devrait-elle s'en mêler? La CIA est le seul service au monde, à ma connaissance, qui fasse de la prospective et publie des analyses géopolitiques tous les ans, observe le directeur du CF2R. Le temps n'est pas prête au dialogue sur un pied d'égalité en réponse à son homologue allemande qui plaide pour le déploiement d'armes nucléaires face à la menace russe en mer Baltique et en mer Noire. Sergueï Chegou a fustigé le refus de l'OTAN de s'engager dans un dialogue pour la sécurité européenne. Le ministre russe de la Défense, Sergueï Chegou, a accusé l'OTAN de refuser de discuter équitablement de la sécurité européenne avec Moscou, comme l'a rapporté l'agence de presse Interfax le 23 octobre. C'est l'OTAN qui n'est pas prête pour un dialogue sur un pied d'égalité à ce sujet, a déploré le ministre russe. Dans le contexte des appels à la dissuasion militaire de la Russie, les forces de l'OTAN se rapprochent de nos frontières, a pour sa part accusé Sergueï Chegou. Le ministre russe de la Défense répondait ainsi à son homologue allemande Annegret Kramp-Karrenbauer, qui avait notamment plaidé cette semaine à la radio Deutschland pour le déploiement d'armes nucléaires au-dessus de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie pour dissuader la Russie dans les régions de la mer Baltique et de la mer Noire, et ainsi protéger les pays de l'Alliance Atlantique de la menace russe. Nous devons dire très clairement à la Russie, nous sommes prêts à utiliser de telles mesures également, afin que cela ait un effet dissuasif rapide. Cela est adapté au comportement actuel de la Russie, avait-elle insisté. La ministre allemande de la Défense devrait pourtant bien savoir comment cela s'est terminé par le passé pour l'Allemagne et l'Europe, a rétorqué Sergueï Chegou dans une référence apparente à la Seconde Guerre mondiale. De plus, le plan de l'OTAN sur la dissuasion en Afghanistan s'est soldé par la catastrophe à laquelle le monde entier fait face aujourd'hui, a souligné le ministre russe en allusion au retrait chaotique opéré par les pays de l'organisation fin août et la reprise de pouvoir par les talibans à Kaboul. Si l'OTAN réfute toute volonté de menacer militairement la Russie, de nombreux incidents impliquant des avions de pays membres de l'Alliance ont été enregistrés. Le 19 octobre, deux chasseurs Sukhoi 30 de l'aviation russe sont intervenus après avoir détecté une menace à proximité de la frontière russe au-dessus de la mer Noire. Comme le rapporte le ministère russe de la Défense, dans un communiqué, les deux avions russes ont identifié les cibles aériennes comme étant deux bombardiers stratégiques supersoniques B1B de l'US Air Force, accompagnés par deux ravitailleurs KC-135. Le 8 juillet dernier, le ministère russe de la Défense a rapporté qu'un chasseur russe Sukhoi 27 avait escorté un avion de reconnaissance atlantique de l'armée française au-dessus de la mer Baltique. Selon Moscou, l'appareil s'approchait de la frontière russe. Les puissances d'Asie ont lâché une bombe afghane à Moscou aujourd'hui. La construction du pays doit être payée par ses occupants militaires depuis 20 ans. Face à des attentes élevées, un groupe de 5 talibans a finalement fait son show à Moscou. Pourtant, la star du spectacle, comme on pouvait s'y attendre, était le Mick Jagger de la géopolitique, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Dès le début, Lavrov a donné le ton des consultations du format de Moscou qui ont le mérite d'unir l'Afghanistan à tous les pays voisins. Sans hésiter, il a abordé la question de l'éléphant américain dans la pièce ou de son absence. Nos collègues américains ont choisi de ne pas participer, en fait, pour la deuxième fois en se soustrayant à une rencontre de la Troïka élargie. Washington a invoqué de vagues raisons logistiques pour justifier son absence. La Troïka, qui avait l'habitude de se réunir à Doha, est composée de la Russie, des États-Unis, de la Chine et du Pakistan. La Troïka élargie, qui s'est réunie à Moscou cette semaine, comprenait la Russie, la Chine, l'Inde, l'Iran, le Pakistan et les 5 stands d'Asie centrale. Il s'agissait donc en substance d'une réunion de l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, au plus haut niveau. La présentation de la Lavrov s'est essentiellement articulé autour des thèmes soulignés dans la récente déclaration de Dushanbe de l'ECS. L'Afghanistan doit être un État indépendant, neutre, uni, démocratique et pacifique, libéré du terrorisme, de la guerre et de la drogue, et doté d'un gouvernement inclusif composé de représentants de tous les groupes ethniques, religieux et politiques. La déclaration commune publiée à l'issue de la réunion n'a peut-être pas été d'un grand suspense, mais juste à la fin, le paragraphe 9 offre la véritable bombe. Les partis ont proposé de lancer une initiative collective pour convoquer une conférence internationale des donateurs sous les auspices des Nations Unies dès que possible, étant entendu que la charge principale de la reconstruction économique et financière et du développement de l'Afghanistan après le conflit doit être assumée par les acteurs ayant eu une présence militaire dans le pays au cours des 20 dernières années. L'Occident fera valoir qu'une sorte de conférence des donateurs a déjà eu lieu. Le sommet spécial du G20 organisé par vidéoconférence plus tôt en octobre, auquel participait le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, puis la semaine dernière, on a beaucoup parlé d'une promesse européenne d'un milliard d'euros d'aide humanitaire qui, en l'état, reste extrêmement vague, sans détails concrets. Lors du G20, les diplomates européens ont admis à huis clos que le principal désaccord résidait dans le fait que l'Occident veut dire aux talibans comment gérer leur pays et comment traiter les femmes comme condition nécessaire en échange d'une certaine aide, alors que la Russie et la Chine suivent leurs principes de politique étrangère de non-ingérence. Les voisins de l'Afghanistan, l'Iran et le Pakistan n'ont pas été invités au G20, ce qui est absurde. La question se pose de savoir si le G20 officiel qui se tiendra à Rome les 30-31 octobre abordera également la question de l'Afghanistan en même temps que les thèmes principaux. Le changement climatique, le Covid-19 et une reprise économique mondiale encore insaisissable. C'est avec un léger retard de 24 heures dû à des vérifications complémentaires sur l'équipement de soutien au sol que le vol VA-255 de la fusée aérienne 5 a enfin décollé avec succès du centre spatial de Guyane CSG dans la nuit du 23 au 24 octobre, avec à son bord deux satellites de télécommunication fabriqués par Thales Alenia Space, dont le SES-17 et le Syracuse 4A, ce dernier devant être mis en œuvre par le ministère des Armées. J'adresse mes félicitations aux équipes étatiques et industrielles qui ont fait de ce lancement un succès. Syracuse 4 est un programme majeur qui participe à la modernisation de nos capacités spatiales françaises de défense, déterminante pour notre souveraineté. La France tient son rang de nation spatiale, a commenté Florence Parly, la ministre des Armées. Actuellement, les communications des forces françaises reposent en partie sur les satellites Syracuse 3A et 3B, mis en service dans les années 2000. Ils seront donc remplacés par ceux de la constellation Syracuse 4 qui comptera à terme 3 satellites d'ici 2030, le dernier devant être optimisé pour les plateformes aéronautiques. Pour rappel, le coup d'envoi de ce programme, alors appelé COMSAT NG, communication par satellite de nouvelle génération, avait été donné en décembre 2015 par la Direction générale de l'armement, déjà, laquelle notifia des marchés à Thales Alenia Space et à Airbus Defense and Space pour la réalisation des satellites Syracuse 4A et 4B. Des prestations de soutien pendant 17 ans à compter de la mise en orbite du premier engin et la conception du segment sol de contrôle ainsi que celle des antennes principales au sol nécessaires à leur utilisation. Le tout pour un coût total de 3,1 milliards d'euros. D'une masse de 3850 kg, Syracuse 4 est le premier satellite militaire à propulsion électrique en Europe. Ce mode de propulsion innovant basé sur des moteurs électriques à plasma et issu d'un savoir-faire français et représente une avancée technologique majeure pour l'industrie spatiale, explique la DEJA. Et d'ajouter ses atouts, son nombre utilisé en remplacement de la propulsion chimique, la propulsion électrique nécessitant moins de carburant à bord pour une même durée de vie, permet d'augmenter significativement la capacité d'emport du satellite et donc sa charge utile de communication. C'est en particulier grâce à cette technologie que les satellites pourront émettre dans deux bandes de fréquences différentes. Les satellites Syracuse 4A et 4B offriront en effet un débit en bande X et bande K militaire de l'ordre de 3 à 4 GBS, soit un débit trois fois plus élevé que celui offert par Syracuse 3A et 3B, ainsi qu'une meilleure résistance aux menaces cybernétiques, aux impulsions électromagnétiques et au brouillage. Celui qui vient d'être lancé est d'ailleurs doté d'équipements de surveillance de son environnement et d'une capacité de déplacement pour contrer une éventuelle agression.